On se lance dans cette guerre qui va s'avérer très vite une catastrophe, un désastre, parce qu'on n'est pas prêt. Donc l'Allemagne s'unit, donc déjà autour de la Prusse, notamment les États du Sud, qui étaient hors champ. C'est vraiment l'union qui est faite, déjà dans les faits, des armées, des royaumes, la Bavière, la Saxe, enfin, etc. La France est isolée. L'alliance envisagée avec l'Autriche et avec l'Italie ne fonctionne pas parce que Grammont donc n'a pas su non plus aux affaires étrangères réussir diplomatiquement ces alliances. Et puis il y a toujours l'affaire de Rome, on le sait. Le Cavour exige pour aider la France que les troupes françaises qui protègent la ville de Rome, donc la ville du pape, le dernier reliquat de souveraineté temporelle du pontife Pie IX, eh bien, qui protège contre le royaume italien, eh bien, soit enlevé pour cette participation. Or, l'empereur refuse, voilà. Et donc, on passe pour l'agresseur. On est en fait l'agresseur. Napoléon III part très mal à la guerre avec son fils Louis qui a 14 ans et donc il se dirige sur Metz et là c'est une mauvaise c'est une mauvaise stratégie si on peut dire parce que d'une part il n'est pas apte à gouverner, on va le voir, il sera une force d'inertie, il empêchera les généraux d'agir. Voilà, d'une part, sur le fond, on va dire. Et puis, il va assumer toutes les défaites du fait qu'il est sur le terrain. Il va être reconnu responsable de tout. Et d'autre part, il laisse l'impératrice à Paris pour gouverner comme régente. Et elle ne saura pas éviter la révolution qui va se produire dès la défaite de Sedan, le 2 septembre 1870, alors que peut-être l'empereur aurait su prendre les mesures pour empêcher ou réprimer cette révolution qui va éclater très vite. Et donc, on s'installe à la préfecture qui devient le QG impérial, voilà, il s'avère que tout va de mal en pis dès le départ. C'est la confusion. À Metz, c'était une sorte de champ de foire, on va dire. Un laisser-aller, une indiscipline, bientôt l'indiscipline. Les maréchaux viennent avec leurs femmes, les généraux aussi. Enfin, voilà. Et puis, donc, Leboeuf, ministre de la guerre, est aussi chef d'état-major. Hein, voilà. Et donc, encore une fois, c'est toute cette incompétence, cette impréparation qui se manifeste au niveau de la logistique, au niveau du ravitaillement. Il n'y a pas d'autorité. Tout le monde donne des ordres, tu veux une expression, et personne n'est obéi. Voilà. Et bientôt, les défaites vont s'enchaîner. Et, d'abord, la division Douai, Abel Douai, qui fait partie du corps de MacMahon, du corps d'armée, et donc qui est défaite à Wissembourg. C'est une retraite, et le Douai lui-même est tué. Le 6 août, alors là c'est une manœuvre probablement psychologique des services secrets allemands, hein, une manœuvre d'intox. Il y a une fausse nouvelle de victoire qui est répandue dans Paris. Hein. Donc, et aussitôt après, bien sûr, l'état-major et le gouvernement démenti, alors que les Parisiens exultaient, c'est ça retombe. Et donc ça crée une mauvaise ambiance après. Ensuite, ce retour à la réalité. Et donc, haute défaite, le général Frossard est défait à Forbach, il bat en retraite, MacMahon à Worth. Et au QG impérial, c'est la stupeur, c'est le désordre, et puis chacun discute, donne son avis, et l'empereur lui est très laconique, très courtois, mais il ne prend pas de décision. Et encore une fois, alors que des généraux comme MacMahon prônent l'offensive, et lui, il est statique. Alors c'est des ordres, des contre-ordres, des hésitations. Il envisage de revenir à Paris sur les conseils de plusieurs généraux, mais parce qu'encore une fois on l'a dit, il serait mieux à Paris parce qu'il n'assumerait pas les défaites. Il serait comme l'arbitre, il serait au-dessus. Bon, et puis il serait utile à Paris pour gouverner. Mais il refuse, voilà. Il y a aussi le fameux Plomb-Plomb, le prince Napoléon, le cousin, qui est intelligent, qui est très critique et qui lui conseille. Mais comme il dit, il suffit que je donne un conseil pour que ce soit une réaction négative. Il suffit que je le dise pour que ce soit le contraire. Le 9 août, donc, à Paris, est constitué un nouveau ministère, Palika-O, en succession du ministère Olivier. Et Napoléon III n'est pas tenu au courant de la liste des ministres. Il est un petit peu hors champ, là. Et c'est l'impératrice qui agit, mais de façon exaltée, maladroite. Hein. Voilà. Et au corps législatif se manifestent déjà des attaques contre le régime. Le Bazaine est nommé. Là aussi, sur insistance de l'impératrice, le 12 août, il est nommé commandant en chef. Et je vous lirai les télégrammes de l'impératrice à son époux, donc qui sont très, très, qui manifestent l'inquiétude et la hâte. Et donc, elle exige la démission de Leboeuf et la nomination de Bazaine. Bazaine est très prestigieux à l'époque, bien qu'il ait échoué au Mexique. Il est parti de rien, il est parti de... C'était un fils d'épicier, donc il est monté en grade, par le pied à l'étrier, on va dire. Il est très populaire. On parle du glorieux Bazaine, etc. On sait qu'il va décevoir, il va se laisser enfermer dans Metz et non plus bouger jusqu'à sa reddition. Il fera rien, en fait. Voilà. Et donc, on s'achemine vers la défaite. Alors, le corps d'armée se déplace à Châlons. On a 140 000 hommes, trois corps d'armée qui sont sous l'autorité de MacMahon, le 1er, le 5e, le 7e, un nouveau qui est en préparation. Et Bazaine, lui, à la tête d'environ 140 000 hommes, s'enferme dans Metz et il est prévu une jonction entre MacMahon et Bazaine. Cette jonction ne se fera jamais. Le 20 août, donc, MacMahon s'installe à Reims. Meilleure position stratégique. Il va donc lutter avec 140 000 hommes contre des 250 000 Allemands. Mais le mouvement d'armée est très lent. On fait à peu près 10 km par jour. L'intendance ne suit pas. L'état de l'armée est pitoyable. Voilà. Et donc, il se dirige, MacMahon, avec ses hommes vers Sedan. 95 km, il faut 9 jours pour les faire. On avance très lentement. Et encore une fois, Bazaine, toujours dans Metz, ce projet de jonction des deux armées qui ne se fera jamais. L'état-major allemand est informé. Alors ça, c'est soufflant, on va dire. Le 26 et 27 août, l'état-major allemand est informé par la presse française des mouvements et du plan français. Il y a pas, les mesures ne sont pas prises pour imposer la censure. Et donc, c'est le journal Le Temps qui publie carrément le plan. Et donc, MacMahon donc, fait ce mouvement vers Metz, on l'a dit pour la jonction, et von Moltke, aussitôt informé, envoie la 4e armée du prince de Saxe à marche forcée, et assez rapide. Et donc le 28-30 août, c'est la défaite de... Il y a une défaite à Beaumont, ouais, qui va... une première une série de défaites qui va voir donc à Beaumont, eh bien, 70 000 Allemands vont attaquer, voilà. Ou alors que l'armée campe. Hein. C'est le 5e corps d'armée, donc qui est pas protégé. Là aussi, il n'y a pas de mesure de protection, il n'y a pas de guetteur. Il se laisse surprendre par 70 000 Allemands. Et donc, le 5e cuirassé va se dévouer pour sauver ce qui peut l'être et pour couvrir la fuite. Donc, il y aura là, eh bien, 7800 Français tués, 2500 prisonniers et, côté allemand, 3400 Allemands morts. Hein. Et donc, c'est vraiment un coup de filet allemand qui se déroule, qui se déploie. La 4e armée, je ne vais pas rentrer dans les détails, enfin, l'armée sera prise en tenaille, hein, l'armée française. La 4e armée du prince royal de Prusse, ou la 3e armée qui fait mouvement sur les arrières de MacMahon par le sud-ouest, et la 4e armée du prince royal de Saxe qui barre la route de l'est. Et donc l'armée française va se trouver enfermée sur le plateau de Sedan dans une cuvette. Ça fait penser un peu à la cuvette de Dieppe, bien fou, ouais, sous les canons allemands, encerclée par les canons allemands, ceinturée. Et on s'acheminera vers la capitulation le 2 septembre 1870. Napoléon III sera fait prisonnier. Il y aura quelques actes héroïques. Je vais en parler, je vais parler après la pause musicale de cette chute, de cette capitulation, de cette reddition de l'empereur qui va être fait prisonnier avec tout son état-major. Nous y revenons après la pause musicale.